Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marqué. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du tas de apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du tas de apéro.
Allez Louis.
Allez mon petit bonhomme.
Et salut à tous, salut, bienvenue dans ce 95e instant sport, le dernier de l'année 2017, où pour une fois, avant de commencer cette émission, nous n'avons pas parlé de sport, mais de Miss France, allez savoir pourquoi. On va y revenir dessus, peut-être parce qu'on a fait des pronostics la semaine dernière sur le concours des Miss. Et je vais commencer par présenter
aussi nul.
Laurent, où tu t'es lamentablement loupé, Laurent.
Voilà, lamentablement loupé, une grosse erreur, et ça arrive.
Pas pire que Julien, où Samy c'était tellement moche qu'elle n'est même pas venue se présenter. Salut Julien.
Ouais, bonjour à toutes et à tous. Ouais, elle a pas trouvé la salle, elle a eu un problème de GPS. Ouais. Du coup, elle est...
Ouais, c'est ça.
Mais c'est la seule que j'avais vue en fait sur internet. Parce que c'était la première, Alsace, par ordre alphabétique. Je pense que la prochaine fois,
je commencerai
par la fin. Ouais.
Ouais. Patrick Biancone, amoureux de sport, lui, il a choisi la fille d'un ancien volleyeur professionnel, mais ça ne marche pas.
Exactement, Miss Rhône-Alpes, bon, qui avait très peu de chances de gagner, finalement, c'est vrai. Et, mais bon, voilà, elle a un parcours dans le monde du sport. Et dans, elle-même jouait au volley. Son père était international... algérien, donc peut-être que Ali Karboua, certainement même, qu'ils doivent se connaître.
Eh ouais, mais ça fait pas gagner des points au jeu des pronostics, hein, Patrick. Hein.
C'est vrai.
Il y a encore moins les matchs de l'OM, mais ça, on le sait, c'est pour te faire descendre. Le problème, c'est que nous, on marque pas de points non plus.
Mais
donc
c'est, c'était possible. Marseille, 3 buts. J'avais dit 1-3. Donc, une erreur de Mandanda et 3 buts de Marseille, ça aurait pu être ça.
Ça aurait pu. Eh oui. Ah, par contre, il y en a un qui a failli marquer des points, mais ça s'est joué à une petite place du concours des Miss. Salut, Auré.
Bonjour à tous.
Et ouais, Miss Corse, c'est un dommage.
Miss Corse, deuxième, ouais.
Deuxième.
C'est la première fois que je regarde Miss France jusqu'au bout, du coup.
Ouais. Mais on a tous regardé Miss France pour la première fois pour marquer des points. Mais
J'étais à un point aussi, puisque j'avais dit 1-0 la victoire de Lyon.
Ah,
si,
oui.
Si Steve n'avait pas fait une petite boulette.
Et, oui. Et si Marseille avait marqué.
Et j'avais dit sur un but de merde, et il y a eu un but de merde.
C'est vrai. Ouais. Et Julien a failli marquer aussi. Hein.
Oui, puisque j'avais dit 2-1. Et en tant que supporter niçois, c'est la première fois que je voulais que Marseille marque un but dans les 5 dernières minutes. Mais Lopez a décidé de sortir deux grosses parades, donc je reste à 0.
Eh oui, c'est ça, voilà, parce que c'est la dernière émission de l'année.
Et moi, j'en suis à 4.
Toi, t'es à 4.
Et moi, à 2.
Laurent, à 2.
Oh, les losers, les autres.
Ouais, mais on a une médaille de bronze. On est 3e ex aequo.
Ah oui, c'est vrai.
Et vous êtes 3 à la 3e place.
Et ouais, c'est pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, on se réveille champion du monde, ou plutôt championne du monde, je pourrais dire. Un beau match hier,
ah ouais,
messieurs.
Super.
Oui, super défense.
Qui l'eût cru?
C'était pas gagné, hein?
Ah non, loin de là.
Mais bon, tu l'as vu? Non, Auré, t'étais sur la route, toi.
Non, je l'ai pas vu, malheureusement. Je l'ai suivi à la radio sur la route, effectivement. Mais grosse surprise quand j'ai écouté le match à la radio, puisque les Norvégiennes, c'est vraiment l'équivalent de l'équipe de France chez les masculins. C'était les grosses favorites. C'était un peu comme si Tsonga se retrouvait en finale de Roland-Garros face à Nadal. Donc on ne donnait pas de grosses chances à cette équipe de France. Et puis elles ont sorti le match qu'il fallait. Comme tu dis, Patrick, grosse défense.
Eh oui, énorme.
Laisser les Norvégiennes à 21 buts, je pense que c'est ça qui a fait gagner le match.
Alors et puis les remplaçantes.
Et les remplaçantes.
Pour moi, il y a eu deux facteurs dans cette finale. Bon, la défense qui a été vraiment extraordinaire, en particulier la gardienne, Amandine Lénaud, qui a comme en demi-finale sorti un match... vraiment exceptionnel. Et puis moi je trouve que les remplaçantes, il y avait beaucoup plus de turnover du côté français que du côté norvégien, et on se rendait compte que le coach adverse avait très peu de solutions, parce que les titulaires sont tellement au-dessus des remplaçantes en Norvège que c'est compliqué pour lui de les faire sortir, alors qu'en France on a fini le match avec une équipe totalement différente de celle qui a attaqué.
Mais on a senti quand même les Norvégiennes tenter le tout pour le tout, puisque le coach a même fait rentrer la troisième gardienne, Donc c'est vrai qu'on a senti qu'ils étaient un peu
quelqu'un peut dire ils ont même joué à 7 ce n'est pas une assiette les feuilles
ils ont même joué à 7 sur le terrain un certain Lagol.
Oui,
j'ai jamais vu.
Et la France a joué un de plus aussi et elle a pris
une deux minutes
chez PAX, ça se passait comme ça.
Et c'est automatique. Ouais. C'est le règlement.
Mais ouais, super super victoire de la France, c'est sûr qu'elles étaient pas données favorites, il y a une joueuse de l'équipe de France, je sais plus qui c'est avant le match qui a dit que la Norvège c'était un peu le Barça de Guardiola. Donc ouais. Elles étaient pas c'est sûr ouais. que même elles je pense qu'elles se donnaient pas beaucoup de chances de victoire et puis elles ont fait un super match même en première mi-temps quand elles étaient menées 8-4, elles ont jamais lâché. Et puis même Patrick parlait d'Amandine Lénaud en deuxième mi-temps quand elle a eu un petit moment de moins bien, Cléopâtre Darleux rentrée et elle a fait le taf.
Ah notre amie Cléopâtre,
qui a sorti un pénalty.
Ouais. Mm. Donc super match, super victoire et puis
Et Cléopâtre Darleux qui comparait cette équipe de Norvège un peu à Patrick au jeu des pronostics aussi.
Ouais, elle a dit ça.
Intouchable quoi.
C'est un peu la Miss Nord-Pas-de-Calais du championnat du monde, elle a dit aussi. D'ailleurs, Amandine Lénaud, qui est énorme et qui devait pas jouer ce mondial parce que la gardienne titulaire est enceinte de l'équipe de France et n'est pas venue. J'ai vu ça dans un reportage.
Ouais, merci. Et pas Amandine Lénaud qui devait pas jouer, c'était Cléopâtre Darleux, numéro 3.
Voilà, Amandine Lénaud serait passée numéro 2.
Oui, voilà.
S'il y avait la...
Oui, parce que c'est Laura Gloser.
Laura Closel.
Gloser. Parce que Closer, c'est un magazine.
C'est un magazine. Ah, on connaît ses sources pour les concours de Miss.
On voit ce qu'il dit tranquillement sur ce canapé le soir.
Ouais, ou dans ses toilettes. On sait pas, on veut pas savoir. Allez, on parle hand, on va continuer à parler de hand avec, c'est un peu leur championnat du monde, c'est leur Coupe de France. Les féminines du MGC qui s'arrêtent plus, victoire à domicile contre le Stade Clermontois, 23-22. C'était le quatrième tour. Lolo, tu as récupéré la feuille de match, dis-nous un peu les stats de ce match.
Alors, est-ce qu'il y avait 18 ans, Lolo?
Alors,
je crois qu'il y en avait parce qu'elle jouait pas.
Il y en avait au moins une.
Ah bon, d'accord.
Est-ce qu'on t'a payé ton resto d'ailleurs en parlant de moins de 18
ans? Non, parce que j'ai été fair play. J'avais pas complètement juste. J'en avais annoncé un peu plus que prévu. Donc j'ai laissé tomber pour.
Il est fair play maintenant. T'as vu, Auré?
Non,
mais avant l'émission.
C'est rare.
C'est la maturité.
Ouais, c'est ça.
La dernière fois que j'ai été fair play sur un terrain de foot, c'était en 99.
Ouais. Oui. Non, la dernière fois que j'ai gagné le fair play. Pas que j'ai été fair play.
C'était au millénaire dernier.
Oui, c'est ça. Donc du coup, le MGC a éclaté clairement d'un but, 23-22, avec cette fois-ci par contre des buteuses très homogènes, puisque la dernière fois à l'Injac, c'était Lucie Coudert, une des moins de 18 qui avait mis tous les buts quasiment. Là cette fois-ci, elle a mis 5 sur 7 tirs. Sinon c'est Charlotte Auroux qui met 6 buts, 5 buts pour Clara Rodier, 4 pour Oran Nikolic. Et donc voilà, une équipe qui a été régulière dans son match et qui a réussi à passer cette équipe de Clermont qui, rappelons-le, était première dans sa poule.
Et Momo qui, rappelons-le, a donné 2 points à Patrick pour lui permettre d'être en tête.
Ben Momo, ouais. Je voulais plus en parler puisqu'elle a donné 2 points à Patrick. Elle a mis un but.
Voilà. Elle a mis un but.
Voilà. Non mais superbe match, il paraît. Donc c'est voilà ouais. Comme.
Elle a reçu le trophée.
C'est vrai qu'on fait un duo top.
Quatrième tour, donc c'est quoi après? C'est le cinquième tour ou on passe direct en 16e?
Comment dire? Oui, c'est ça. Le tour suivant, c'est le 5e.
Non, mais ça pourrait être les 16e de finale.
C'est le champagne qui commence à faire effet.
Voilà. Avant d'arriver à Paris, bon, mais là on peut dire qu'elles sont pour l'instant elles sont dans l'Allier. Elles ont encore quand même une marge avant d'arriver à Paris pour la finale.
Il reste combien de tours?
Mais il en reste pas mal encore à passer, donc on va la jouer cool quoi.
Non, mais il paraît que cette équipe de Clermont avait pas perdu un seul match depuis le début de la saison. Est-ce que c'est vrai, Laurent? On m'a dit ça, moi.
Eh ben je l'ai pas vérifié, donc je sais pas.
Si, on va dire ça.
Ouais. Hein? Non, ouais, mais on va dire.
C'est ce qu'on m'a dit samedi en début d'après-midi. On m'a dit que cette équipe de Clermont n'avait pas perdu un match dans son championnat.
Non, mais elles sont sur leur lancée hein, depuis la finale, depuis le match contre l'Handball Nord-Lozère, elles enchaînent. Hein. C'est bien, on va les suivre. Et du coup, elles n'étaient pas en Allemagne, alors Laurent, elles ne sont pas remontées pour
du
la finale.
Du coup, d'après ce que... Alors, je pense qu'elles étaient 2-18. Il y avait aussi Erin, un gardien. Ah. Voilà. Elles n'étaient pas en Allemagne. Non, mais il fallait bien rentrer un jour ou l'autre.
Oui, mais c'est dommage quand même de voir les matchs où elles perdent, la France.
Ben oui, mais quand tu réserves tes places, tu prends la première semaine, c'est sûr, parce que tu vois les joueuses de ton équipe. Après, c'est pile ou face, quoi. Si la France n'était pas qualifiée, c'est moins joli.
Quoi. Et oui, c'est sûr. Oui. On ne sait pas quand a lieu le tirage, j'imagine. Il n'a pas eu lieu, hein. J'ai rien vu passer. Bon, voilà. Si une des filles peut nous contacter pour nous dire quand le tirage a lieu. Voilà, sors ton téléphone, Laurent, tu as raison. L'équipe 1 ne jouait pas, par contre, la réserve est allée s'imposer dans un match tendu face à Palaja 31-26 avec deux cartons rouges directs du côté de l'équipe de Lod, ce qui n'arrive pas souvent. À noter la présence de deux cadres de l'équipe 1, Omar Baradji et Erwan Pott, et de retour dans les buts, le jeune Maël Bonardo après une longue convalescence. La réserve qui finit bien l'année aussi. Hein.
Oui, il le fallait, parce qu'il y a eu quelques résultats un peu en dents de scie, et donc là c'est bien, on est une belle équipe renforcée. C'est sûr que quand Erwan débarque en réserve, ben, je pense que les adversaires doivent être quand même assez surpris de retrouver un tel joueur en face de toi.
Ouais.
Erwan qui met que 4 buts quand même.
Ah.
Et par contre notre ami Omar en met 11, donc Omar a été très efficace.
11 et 4, 15 sur une trentaine de buts, donc ça fait déjà la moitié.
Sur 31.
Ça fait 15 sur 31, ouais, ça fait la moitié.
Voilà,
ouais.
Exactement.
C'est là où oui, quand même Damien Portebled qui met 9 buts, qui a bien contribué aussi à cette victoire.
Il joue en une
Non, il jouait.
Il joue plus. D'accord, il joue plus, d'accord.
C'est le coach de l'équipe réserve.
Ça donne quoi au classement?
Ben, au classement, l'équipe est 6e avec 16 points. Donc juste à 4 points du second terrain. Le premier est Aramon qui a vraiment une très belle avance avec 26 points. Si on regarde derrière, il y a le MUC qui a 16 points aussi, Béziers 15 et Pays Viganais le 9e à 12 points. Il y a une petite marge avec le 11e Argelès qui n'a seulement que 10 points. Donc voilà, l'équipe est bien calée au milieu. Elle peut regarder devant avec un petit peu d'aisance.
D'accord. Le retour de la Une, on connaît les dates, Patrick, tu les as en tête?
C'est fin janvier.
Fin janvier. Ah ouais, il y a grosse pause.
Ouais, il y a une grosse trêve puisqu'il va y avoir le championnat d'Europe
de hand masculin.
Donc c'est pour ça qu'il y a une si longue trêve au niveau du hand.
Il a lieu où?
En Croatie.
En Croatie. C'est bien ça. Ça va être compliqué là-bas. On est favori encore.
Ben oui, forcément.
Forcément, comme d'hab. Ok, voilà pour le hand. Le basket maintenant. Alors avec l'entraîneur joueur, car oui, ils ont eu besoin de lui. Et du coup, cela s'est traduit sur le terrain grâce à son triple-double, 25 points, 12 Ricard et 14 Jack Daniel. Le BCM a gagné 61 à 36. Bravo, Aurélien.
Merci.
Alors, il paraît que tu as fait un peu de rugby en fin de match, hein, on m'a dit. Tu as pris le ballon, tu as foncé dans le tas.
Ouais, c'était même pas en fin de match, c'était pendant tout le match qu'il fallait faire un peu de rugby, effectivement, parce que l'équipe de l'ESSAC était très regroupée à l'intérieur, donc très difficile de développer le jeu à l'intérieur et qui faisait énormément de fautes qui étaient pas sifflées. Donc, c'est vrai que les arbitres sur ce coup-là étaient, une fois les fautes dans la raquette, il n'y en a eu aucune de sifflée. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il fallait sortir un peu les coudes et les coups d'épaule pour pouvoir s'imposer.
Mmh. Ou les trois points, vu qu'on sait que tu es un spécialiste.
Un spécialiste, je sais pas, j'en ai mis un.
Ah, voilà. T'en as mis un, bah, c'est bien.
Hein. Donc c'est un chanceux, en fait.
Ok, 60... c'est quoi tes stats en tout?
3 points.
Ok, bon, c'est bien. Parfait.
En même temps, je fais 1 sur 1. Hein.
Et 3 points, sur 3 points de futur à un adversaire.
Et ça aussi.
Non, quand même pas. Nous, on a un joueur qui est sorti le nez en sang, un autre qui s'est fait la cheville sur un rebond. Donc, c'est vrai que c'était assez rugueux.
Eh, c'est la foire aux bestiaux, les sacs. Hein.
Ouais,
je l'avais dit avant le match. Bon, en tout cas, c'est bien. Donc, au classement, cela doit bien se traduire. Bon, bien que vous ayez des matchs en retard.
Ouais, au classement, on est quatrième. Enfin, on est plusieurs équipes à être troisième ex-aequo. On a un ou deux matchs de retard sur certaines équipes devant nous.
Ah, voilà,
j'ai bien étudié ce classement de Speed Pool. Oui, oui, du basket. J'ai bien étudié. Et donc, pour moi, il y a quatre équipes qui peuvent jouer la montée. Et donc, il y a deux places. Puisque j'ai bien retenu la leçon aussi. Donc, voilà. Donc, il y a bien sûr le basket Cosmandois et trois autres équipes. Et donc, il y en a deux qui.
Alba 1, Alba 2.
Non, il y a Alba 4, Alba 4, Alba 5.
Druel,
la réserve. Et donc, le BCM. Et donc, de ces quatre équipes, il y en a deux qui monteront. À moins que Alba, est-ce qu'Alba peut monter les deux équipes? Au niveau règlement, c'est
alors,
pas mal.
Ça dépend, puisqu'ils ont une équipe, effectivement, qui est au niveau au-dessus.
D'accord.
Donc, si l'équipe au-dessus ne monte pas, elle, de son côté, reste dans sa poule, ouais. Effectivement, ils ne pourront pas monter.
Ah, d'accord.
Ok.
Donc, voilà. Ce qui libérerait des places pour notre BCM qui peut viser haut cette année.
Non, non, mais le BCM, il faut qu'il monte sur le terrain, là. On monte pas administrativement. C'est quoi cette histoire, Patrick? Mais le problème, c'est qu'Auré, il aime bien être troisième ex aequo, donc,
Si on peut être premier ou deuxième, ce sera avec plaisir.
Bon, prochain match.
Donc, en sachant que, donc, effectivement, il y a Druel qui a deux défaites. Nous, on a deux défaites aussi. Alba 4 et Alba 5 ont une seule défaite. Mais ils se rencontrent demain soir, ces deux équipes. Donc, il y a une des deux qui sera à égalité avec nous, qui va descendre d'un cran aussi, qui aura deux défaites.
Voilà. Donc, tu seras virtuellement second.
Voilà, c'est ça. Toujours troisième, parce qu'on a toujours des matchs en retard. Voilà. Mais, donc, on rattrapera pas le second. Mais début janvier, on va faire notre match en retard contre Alba 4, justement, qui sera hyper important.
Voilà, des matchs en retard et aucun match à domicile pour l'instant, il faut le rappeler en plus.
Exactement, ouais, on a fait que des matchs à l'extérieur.
C'est vrai, 8 matchs, 8 déplacements.
7 matchs, ouais.
7 matchs ? Oui, parce qu'il y avait un match forfait.
Prochain match, c'est quand ?
Prochain match, c'est le 12 janvier.
12 janvier.
Donc à domicile.
Ok, à domicile ou pas.
Normalement, tous nos matchs de janvier sont à domicile. On joue tous les vendredis soirs à domicile.
Parfait, ça.
Donc, on va attaquer l'année 2018 plein badem.
Ok, ça nous fait une grande pause là pour tous les sports. Hein, parce que moi, je comptais revenir.
Pas le volet, le volet joue le 3. Hein.
Ouais, le volet joue le 3.
Oui, mais à part le 3.
Le foot joue le 6. À l'Uzenac, le match en retard.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Et le rugby aussi.
Et le rugby joue le 14. Alors, sauf s'il y a le match en retard qui ne s'est pas joué, je ne sais pas quand ils vont le match.
Il se joue le
7.
Le 7.
D'accord.
Alors, on pourra revenir le 8 janvier pour l'instant sport. Mm. Et le 3 janvier, on va commenter ce match en direct, monsieur Laurent Julien. Mmh. Hein, tu seras avec Corentin qui connaît le volet, comme toi. Et une petite surprise, on aura des gens qui vont venir vous aider au micro, vous verrez, ce sera la surprise.
Super.
Voilà, et nous, on vous regardera du bar avec Patrick et Auré, pour être sûr que...
Si pas de problème, on va se régaler.
On vous fournira quand même, on vous amènera ce qu'il faut.
Ouais.
Eh ben c'est encore mieux.
Mais attention, hein, parce que moi j'ai commenté des matchs avec Laurent, et arrivé à la fin du match, c'était compliqué de tenir, hein. Quand on boit trop de soda pendant le match.
Et qu'il y a des prolongations. Et des pénalités.
Alors, on a contacté le supporter d'Andrézieux, peut-être qu'il va venir.
Ah. Alors, c'est vrai qu'au volleyball. C'est entre nous, ouais, Ludo.
On n'en parle pas. On en est où? Tiens, du foot maintenant. National 3, défaite de l'AFL chez la réserve du Nîmes Olympique, malgré un but du capitaine Fadil Gourma à la 10e minute. Alors, on s'attendait à un match difficile, hein, face à la réserve de Nîmes. Ça aurait pu quand même faire match nul. Ce week-end, c'est pas tombé du bon côté. Ça arrive, hein. Ouais,
c'est une occasion ratée, hein. Bon, un peu comme à Castanet, même si bien sûr Nîmes Olympique fait un début de championnat beaucoup plus sérieux que cette équipe de Castanet, même si cette équipe de Castanet quand même a gagné à Canet en Roussillon, hein, donc 4-3, un match incroyable et une surprise. Bon, dommage pour nous protéger de l'AFL qui avait une bonne occasion là de faire un coup, comme on dit, puisque quand tu joues contre une équipe qui est au même niveau que toi et que tu vas à l'extérieur, tu te dis que si tu fais un résultat, bien sûr, c'est un coup positif et un bon coup. Bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, dommage, mais bon, bon match de l'AFL, c'est dommage, méritait mieux. Bon, c'est le football et dommage de...
Eh oui, ça arrive.
Ouais, moi, Julien. Des échos que j'ai eus, premier but de Nîmes, donc après 10 minutes, et quasiment sur l'engagement, égalisation de Fadil. Et apparemment, derrière, ça a été un match très, très fermé, quoi. Où personne n'osait vraiment se livrer à l'autre équipe. Et puis ça a basculé sur un coup de pied arrêté à un quart d'heure de la fin. Apparemment une faute qui peut se siffler comme elle peut ne pas se siffler. Et coup de pied arrêté, un défenseur qui monte, qui marque un peu de tête-épaule, de ce que j'ai compris. Et donc c'est sûr, ça tombe du mauvais côté pour l'AFL. Ça aurait pu permettre de se rapprocher un peu du trio de tête. Mais bon, il y a toujours ce match en retard à l'Uznac, là, à la rentrée, qui permettra peut-être de recoller au classement, mais...
Attention, Luznac a fait match nul à Toulouse chez le premier ce week-end.
Ouais.
Ah bon, parce que Luznac est bon dernier, hein.
Ouais.
9 points seulement.
1-1 à Toulouse.
Oui, puisque Castanet, comme le disait Patrick, a gagné 4-3 à Canet en Roussillon, qui avait peut-être la tête à la Coupe de France. Donc Castanet a fait une très bonne opération dans la lutte pour le maintien.
Non, mais on se rend compte que c'est hyper serré, oui. Vraiment cette année, puisque...
Tout le monde peut battre tout le monde.
Non, mais tu es à 5 points du second... Et à 5 points de la relégation. Donc, c'est rare, quoi. C'est un scénario quand même assez rare. Et donc, tout est possible, tout est ouvert, d'un côté ou de l'autre. Mais c'est vrai qu'on se dit que, il y a 2-3 petits matchs et ça aurait pu, bon. Mais moi, je suis confiant et vraiment, l'AFL fait le même, la même fin de saison que l'année dernière, c'est-à-dire un boulet de canon, ben on peut revivre ce qu'on a vécu, c'est-à-dire à la fin sur les 3-4 derniers matchs en se disant ben oui, on peut accrocher une accession 1-2.
Surtout que là, bon, il y a 8, enfin, en étant très optimiste, il y a 8 points d'écart avec Toulouse, la réserve de Toulouse qui est leader.
On va donner le classement.
Ouais.
Auré, non, vas-y, ouais. T'as le micro.
Ouais, je le garde. Alors donc premier, donc la réserve de Toulouse avec 24 points. Deuxième, la réserve de Montpellier, 21 points. Égalité avec la réserve de Nîmes, 21 points. Donc les trois équipes réserves qui sont en tête. Quatrième, Canet-Roussillon, 20 points. Cinquième, Fabregues, 17 points. Sixième, Mende, 16 points.
Et derrière, avec un match
donc,
de moins.
Avec un match en moins, donc contre l'Uznac.
Et derrière, on ne regarde pas derrière.
Serré, donc, ouais. Juste pour revenir là-dessus, donc, ça peut être une bonne opération peut-être d'aller gagner à l'Uznac, d'autant que le match d'après sera la réception de la réserve de Toulouse. Donc en étant très optimiste, avec deux victoires lors des deux prochains matchs, on peut déjà, entre guillemets, être à deux points de cette réserve de Toulouse.
Exactement, ça ferait 22 points.
Tout à fait, c'est ce que j'allais dire, ouais. Tu fais bien de le signaler. Et est-ce qu'on a des nouvelles de Ndiaye qui s'est blessé? Est-ce que c'est grave?
Il est sorti à la 25e, j'ai vu, oui.
J'en sais pas plus. Mais ceci dit, avant l'Uznac, il y a quand même un match, alors c'est pas très sexy, mais mercredi, Coupe Garloser. Il faut aller à Monoblé mercredi soir 20h30. Puisque c'était galère. Un match qui était prévu le 7 janvier à la rentrée. Mais il y a donc ce match en retard contre l'Uznac à rattraper. Donc l'Uznac le 6 et Monoblé donc en Coupe Garloser mercredi là 20h30. Monoblé qui joue en D2, donc ex-PHB.
Ok.
Et, dans la poule du Buisson.
Dans la poule du Buisson, tout à fait. Monoblé, c'était une équipe qu'on avait nous avec la réserve de l'AFL l'an dernier. Donc ce sera pas simple. Ouais, et match important puisque l'AFL est tenant du titre, il faut le rappeler.
Oui, enfin pas simple, il y a beaucoup de divisions d'écart quand même.
Il y a beaucoup de divisions d'écart, mais bon, voilà, mercredi soir, on connaît un peu les matchs traquenards qui sont toujours proposés aux équipes lausériennes, très gentiment.
Est-ce qu'on
sait... Il y a 4 niveaux d'écart.
Est-ce qu'on sait quel effectif va être envoyé à Monoblé?
Il y aura des... Alors c'est toujours un peu particulier, puisqu'il y a la problématique des gens qui travaillent avec les matchs à 20h30. Je sais que certains joueurs de la réserve ont déjà été contactés pour y aller. Donc ce sera, je pense, un mélange entre peut-être joueurs de l'équipe 1 qui jouent un peu moins et joueurs de l'équipe 2 qui auront l'occasion un peu de se montrer aux yeux du staff de la N3.
Ok, un bon mix.
Ouais. Après ce match à l'Uznac, quid de la météo, parce qu'on sait que l'Uznac, c'est un peu comme ici, hein, c'est l'Ariège, la montagne. Donc avec la météo qu'il y a actuellement, c'est sûr que tu n'es pas sûr de jouer quand même le 6 janvier.
On va suivre ça. La réserve a joué et a gagné facilement contre le leader Lunel à domicile, 5-2 avec un quadruplé d'Hamza Bakour. On va rester avec toi, Julien. Tu as eu des infos sur ce match?
Oui, un petit peu d'infos. Victoire 5-2 face au leader.
Qui ne l'est plus
du coup. Et de ce que j'ai compris, je pense qu'ils ont été assez surpris puisqu'on marque après 5 minutes de jeu par Hamza. Je pense qu'ils ont été assez surpris de prendre un but d'entrée de jeu. Ça les a un peu déstabilisés, puisqu'un quart d'heure après, Hamza a récidivé. Et 3-0 par Yann par la suite. 3-1 quasiment aussi sur l'engagement. On rentre à 3-1 au vestiaire. Et puis une deuxième mi-temps un petit peu plus serrée que la première, mais apparemment vraiment un gros match de l'équipe réserve, puisqu'il fait Lunel finit à 10. Ils ont dû commencer un peu, de ce que j'ai compris, à s'engueuler entre eux, un petit peu à s'énerver, puisque c'est vrai que quand tu viens à Mende qui est... Allez, on va dire plutôt en fin de tableau que t'es leader, tu t'attends à prendre 3 points avant les vacances et à faire un peu le trou avec les équipes qu'il y a derrière. Et puis c'était un bon jour pour Hamza puisqu'il est quadruplé, comme tu l'as dit, Ludo, et un mauvais jour pour Lunel puisqu'il finit à 10, il rate un pénalty. Donc tous les ingrédients ont été mis du bon côté pour notre équipe réserve et c'est sûr que c'est une super opération et ça montre tout le paradoxe de ce championnat puisque la semaine dernière on perd 2-1 à Nîmes Soleil Levant en concédant uniquement 2 occasions. Et là, hier, on est capable de battre 5-2 cette équipe de Lunel qui est leader. Et tout à l'heure, Patrick parlait du classement de l'équipe 1 de l'AFL, mais le classement de l'équipe 2 est très sympathique aussi, puisque à sa lecture, on est à la fois à 6 points de la première place et on n'est qu'à 2 points devant la première équipe qui descend. Donc c'est très très serré et on a vraiment l'impression que tout le monde peut battre tout le monde. Et...
Donc il fallait absolument cette victoire.
Oui, ouais, c'est sûr que cette victoire a fait du bien, même si... quand tu reçois le leader, tu te dis peut-être que c'est pas là que tu vas prendre les 3 points, mais c'est vrai que ces 3 points-là font énormément de bien. Et à la rentrée, on ira à Fabregues, qui est 3e, il me semble, pour essayer de faire fructifier cette victoire. Et ce sera la dernière journée des matchs aller.
La réserve de Fabregues.
La réserve de Fabregues, oui.
On on est en N3 dans la même poule, bien sûr, que la première de Fabrice. Ouais,
et donc, du coup, c'est le club de Rousson qui est repassé en tête avec un point, enfin, égalité avec, ouais, avec Lunel.
Égalité.
Et seulement un point de plus que la réserve de Fabrice.
Donc là aussi, donc ce sera là, un bon match.
C'est du même niveau.
Ouais, un bon match pour terminer cette phase aller. Et là aussi, ce sera pas tout à fait le match de reprise, puisque le 7 janvier, il y a un quart de finale de Coupe Lozère à jouer du côté de Saint-Georges-de-Lévejac.
Ouais, bah, voilà.
Donc, si y a la neige, vous jouerez pas non plus.
Pour être tout à fait complet. Ouais, tout à fait.
Voilà. Il y en a égalité avec le club d'Anduze de Stéphane Sora.
Oui,
qui
a gagné.
Qui a gagné 3-2 hier.
Qui a gagné aussi son match en retard.
Ok, parfait. Les honneurs régionales féminines perdent contre Saint-Aunès 4-1 et sont avant-dernière du classement. C'est compliqué hein, pour les féminines là.
Oui, c'est compliqué.
Vous avez bien démarré.
Ouais, ils avaient commencé avec 2 victoires sur les 2 premières journées. Et si je peux me permettre, je vais passer un petit coup de gueule.
Allez.
À propos de cette équipe féminine, puisque donc tous leurs matchs sont prévus au Cosdolge, plutôt sur le terrain du milieu, avec en terrain de repli le synthétique. Et hier, le terrain synthétique n'a absolument pas été déneigé pour cette équipe féminine.
Ah, c'est pas beau ça.
Alors que je pense que si ça avait été ou la N3 ou la R2 qui avait dû jouer, je pense que ce terrain aurait été déneigé. Donc après quelques coups de fil passés, on leur a gentiment proposé d'aller jouer au chapitre annexe, en sachant que le chapitre annexe est absolument dégueulasse. Puisque m'occupant un petit peu de l'école de foot, on a annulé la séance de vendredi dernier de l'école de foot pour justement préserver le terrain. Et on envoie une équipe qui joue en ligue jouer un match important quand même, puisque tous les matchs sont importants en ligue, sur un terrain absolument horrible. Donc je trouve
c'est pas terrible.
Je trouve pas ça terrible, je trouve pas ça sympathique d'avoir envoyé les filles au charbon sur un terrain pourri comme ça. Et ça met pas en valeur la section féminine de l'AFL.
D'accord.
Voilà.
C'est dit, c'est petit, Julien, tu fais bien.
C'est bon. Dit et bien dit.
Voilà. Alors, j'ai les U19 qui en Régional 2 ont gagné à Saint-Martin 3-2 et sont installés en milieu de classement. Je savais pas qu'il y avait la coupe ce week-end aussi avec l'équipe de l'AFL qui s'est qualifiée. La coupe d'Alu.
Oui, la coupe d'Alu, oui, tout à fait. Donc l'équipe 3, hier, on est allé jouer à Marvejols.
Voilà, chez le tenant du titre.
Chez le tenant du titre, même si cette année, vu que Marvejols, l'équipe 1 est redescendue au niveau Lozère, donc on a affronté l'équipe 2, qui s'était un petit peu renforcée quand même avec 3-4 joueurs de l'équipe 1. Mais victoire 4-0, donc c'était dans le cadre des huitièmes de finale de cette Coupe d'Alu, victoire 4-0, une belle victoire au terme d'un match sérieux de notre part, et direction les quarts de finale où donc on ira affronter l'OM. Puisqu'on jouera l'Olympique du Montégal.
Aïe,
le 14 janvier.
Les coups francs de 35 mètres, tire-les. Hein, tu réfléchis pas. Un petit rebond devant
de
et c'est bon. Hein, pas de
souci. Voilà, on continue l'aventure en Coupe d'Alu. Et hier, le coach Ludo Salva nous a gentiment rappelé que ça faisait 7 ans que l'AFL l'avait gagné avant la perte du trophée l'année dernière. Donc ce serait bien de réinscrire le nom de l'AFL au palmarès.
7 ans? Non. Tu l'avais pas gagné, toi, Laurent, avec un mutur coup franc?
Oui, mais c'est ça, on l'a gagné. Il y a
7 ans, 7 ans d'affilée.
Sept ans d'affilée.
Avant la perte de l'année dernière.
Consécutive.
Ah, d'accord.
Il y en a gagné 3 ou 4 ou 5, toi. Tu en as gagné, Laurent.
Les 7.
Les 7. Bon, mais voilà.
Champion. Allez, on finit avec Langogne qui obtient le match nul, 1-1 à Maruenge. Langogne qui se fait remonter malheureusement dans les arrêts de jeu, mais qui reste invaincu à l'extérieur. Belle performance de ces joueurs langonnais.
C'est le 4e au classement, je crois.
Exactement. Allez, une pause musicale et on revient avec le volley, le rugby et l'actu nationale et internationale. Allez, on est revenu avec le volleyball. Tiens, on n'en parle pas souvent. On l'avait dit la semaine dernière, c'était un match sans enjeu. Hein, le MVL qui est allé à Caudry, qui ne sera pas qualifié pour les playoffs, donc ça ne servait à rien, qui s'impose 3-7 à 2. Dans le même temps, Martigues gagne contre Arne 3-7 à 1, ce qui sert également à rien. Par contre, Fréjus jouait au CNVB, mais gagne 3-7 à 1 aussi, donc pas de changement au classement. Pas de changement dans les playoffs, pas bon du tout. On va quand même parler un peu de ce match de volley à Caudry, 3-7 à 2. Un match plus compliqué qu'il semblait au départ.
On a l'impression que cette équipe du MVL n'est absolument pas motivée face aux équipes de bas de tableau. Et c'est souvent des matchs hyper compliqués. Ben, contre Grenoble, ça a été un peu à l'arraché.
Mais déjà au match aller contre Caudry, ça avait été compliqué.
Le match aller, bon, il y a eu une victoire, mais que 3-1, alors que le coach n'était même pas déplacé. Ils étaient venus avec une équipe affaiblie. Et donc voilà, on a l'impression que cette équipe du MVL se transcende contre les gros clubs, en particulier dans cette Coupe de France. Et puis, un championnat, c'est compliqué, y compris contre les gros clubs, puisque on a pris une rouste à Martigues et on a perdu chez nous contre Fréjus. Et puis contre ces équipes de bas de tableau, on a du mal. Alors il y avait une équipe, Costan avait fait tourner, hein. il a eu raison, hein, puisque c'était dans les matchs de l'année, et on savait qu'il n'était pour rien. Carlos Antoni, qui est toujours blessé, n'a pas joué. Puis bon, le passeur grec a joué deux premiers sets, puis Paul Cooper a joué les trois derniers. Pareil au centre, puisque Mousseguey, qui en principe est titulaire, n'a joué que le cinquième set. C'est Olivier Fabre qui a joué les quatre premiers. Donc pareil, voilà, Robin Utrel a joué les deux premiers sets. Kevin Velay a joué le troisième et le quatrième set. Donc on voit, il y a eu pas mal de changements, beaucoup de turnover. Et puis un joueur en face qui a été exceptionnel, puisqu'il a marqué 32 points. Donc c'est pas tous les jours que
c'est énorme.
Même en 5-7, il a mis 32 points, le pointu, il a fait 55 attaques et donc il a marqué 32 points sur 55.
Et au match aller, c'était déjà lui qui était ressorti du lot. J'imagine que c'est le même, ouais. Là, un grand brun là qui était le meilleur de son équipe, clairement.
Et donc du côté mandois,
il faisait tâche même par rapport aux autres.
Loïc Alphonse, toujours dans sa forme depuis le début de la saison, 20 points avec un pourcentage en attaque quasiment de 55-60%, donc ce qui est un très bon score pour un pointu. Et puis le central brésilien Ninao, 14 points, là aussi un gros match de sa part.
Ok, faut l'embaucher là ce joueur. Il faut le récupérer.
Ouais, à voir.
Il y a des mercato d'hiver au volley, comme au foot, ou pas
non,
du tout.
Tu peux remplacer un joueur s'il est blessé pour longue durée, ce qu'on appelle un joker médical.
D'accord, il n'y a que des jokers médicaux. Oui. Il n'existe pas de transfert.
Non. Ouais. Les effectifs sont figés.
Mais c'est pas plus mal.
Ouais.
Tourcoing, tu en parlais, a perdu chez lui ce week-end contre Paris 3-7 à 1. Tourcoing qui est 5e de Liga.
Oui, donc niveau supérieur par rapport à Nice, qu'on a éliminé au tour d'avant. Donc on peut récapituler le calendrier du début janvier pour cette équipe du MVL qui s'annonce un mois de janvier charnière, j'allais dire de tous les dangers. On en saura vraiment plus.
Parce que là, décembre, c'est fini.
Ouais, décembre, c'est fini, il n'y a plus de match. Donc Coupe de France professionnelle Tourcoing, on reçoit le mercredi 3 janvier. Le 6 janvier, Coupe de France amateur. Donc, on est les tenants du titre. Déplacement à Fréjus. Donc, énorme match.
Faut la lâcher, là. Énorme match. Coupe de France amateur.
Le samedi d'après, le 13 janvier, on reçoit le CNVB. Donc, on sait que les points vont compter. Il faut absolument marquer 3 points pour rester dans la course au titre. Et puis, le week-end d'après, 17 janvier, un nouveau déplacement à Fréjus.
Oui, il faut absolument gagner aussi.
Voilà, un championnat. Donc, là, 4 matchs. Monumentaux pour ce début janvier pour l'MVL.
Donc toi Ludo, tu dis il faut lâcher la Coupe de France amateur.
Oui, je pense, faut envoyer la
deux. Je vois pas comment je connais un petit peu l'entraîneur mandois. Quand déjà je lui avais parlé d'un match de Coupe de France contre le D1, il m'avait regardé avec des yeux
Mais je le dis à l'antenne, je lui dirais pas à lui, hein. Ouais, je vais pas lui dire ça. Qu'il faut qu'il lâche la Coupe amateur. Ouais.
Je vois pas comment on peut lâcher un match quand on est dans l'effectif de Constant Chaussy.
Ouais, mais le problème, c'est que tu rejoues contre cette équipe de Fréjus 2 semaines après, donc.
Et si t'es meilleur, hein, y a pas.
C'est toujours compliqué. Ouais, mais je sais pas.
Et là, y a pas de tactique, de machin. Quand tu fais des smashs, tu envoies des plombs par terre, et ça fait point, quoi.
C'est vrai.
C'est très difficile, en plus, je pense, de lâcher contre Fréjus, quoi.
Mais tu lâches pas, mais tu envoies ton équipe réserve. Ils peuvent faire quelque chose, ils arrêtent pas de gagner l'équipe réserve.
T'as pas le droit.
Quoi, t'as pas le droit?
Ben, en coupe, t'as pas le droit.
Ah, t'as pas le droit en coupe amateur?
Je pense pas que tu aies le droit. Ouais.
Non, et puis en plus, t'as ni queue ni tête.
Ah, mais c'est ça que je voulais dire, c'est envoyer l'équipe 2. Mais si tu peux pas, c'est autre chose.
Non, mais Fréjus, non, il faut jouer. Et puis au contraire, moi je pense qu'il faut jouer, gagner et montrer que t'es capable de prendre un avantage psychologique 15 jours avant les gens en championnat.
C'est exactement ça.
Ouais. Je suis d'accord avec Laurent et Julien. Ça paraît insensé de lâcher cette coupe amateur dont on est le tenant du titre. Avec les émotions, surtout vécues la saison dernière. Donc c'est vraiment une compétition extraordinaire où tout est rassemblé le jour de la finale, professionnel, amateur.
Attention aux blessures, Patrick.
C'est vraiment génial, hommes et femmes. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, il y avait eu 0 blessure tout au long de la saison. Cette année, il y a plein de petits pépins et un gros pépin avec la cheville de Carlos Anthony, bon, qui est revenu, mais maintenant on a bien compris qu'il est revenu parce que les matchs, il y avait de gros matchs, mais il n'était pas totalement rétabli. Donc c'est vrai que il faut faire attention, mais ça paraît quand même compliqué de lâcher cette coupe amateur.
Par contre, en parlant de volleyball, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans la Lozère Nouvelle, mais il y a une équipe que j'ai déjà découvert ce week-end, c'est qu'il y a une équipe 3 au Mangue Volleyball. Oui. Alors je sais pas si vous le saviez, on n'en parle jamais.
C'est loisir.
On parle de l'équipe 3 du foot. Mais il y a une équipe 3 qui joue en départemental.
Oui, mais on parle du 3 du foot parce qu'il y a Julien qui joue dedans, sinon on en parlera.
Ah ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, je suis allé les voir jouer samedi.
Ah, et alors?
Et alors, je suis parti à la fin, je sais pas ce que ça a donné, mais c'est une équipe sympathique qui mérite qu'on en parle.
Droit de réponse, Patrick Biancone.
Non, mais je vais dire que Christian Martier nous écoute régulièrement, donc voilà, Laurent Julien a transmis un message subliminal à Christian, donc qui maintenant va regarder attentivement les résultats de cette équipe. Alors, il est au courant.
Je suis parti à 1-7 partout, c'était contre Gignac. Voilà.
Alors, on peut aussi parler, puisqu'il y a une équipe féminine qui s'est recréée, alors une équipe de junior-senior qui joue en héros.
Ah.
C'est calme, on peut en parler aussi alors.
Bien sûr.
Bien sûr, tout à fait.
Alors Laurent, parle-nous de cette équipe féminine.
Ah non, je peux pas en parler. J'y vais petit à petit.
Ok. Mais on va parler de l'équipe réserve par contre. Hein, parce que l'équipe réserve qui était au plus mal la saison dernière, cette année, fait des étincelles. Elle est allée au MUC. Le MUC n'est pas très bien classé, mais ils sont allés avec beaucoup de blessés. Et ils se sont imposés quand même 3-7 à 0. 7 et Gignac se sont également imposés. Du coup, Mende reste en embuscade 3e à 1 point de Gignac et à 2-2-7. Voilà.
Oui, tout est possible puisque le 7 volleyball a perdu le match au sommet contre l'Arago. Je crois, donc
c'est ça.
Voilà, tout à fait. Donc, ce qui fait que
non, ils ont gagné contre l'Arago 7 volleyball.
L'Arago a gagné.
Ah, c'est l'Arago qui a gagné. Ah,
oui. 7 volleyball. D'accord. Donc, c'est l'Arago qui est en tête avec 2 points d'avance sur Mende. Donc, les matchs aller sont désormais terminés.
Voilà.
Donc, tout va se jouer au match retour entre ces quatre équipes qui sont vraiment très proches. Et donc, seul le premier est promu. Rappelons le règlement, pas de barrage, pas de play-off, pas de deuxième, meilleur deuxième. Donc, seul le premier accédera à la N3. Donc, tout est possible encore pour l'équipe de Sofiane Cadour.
Exactement. On va s'arrêter là pour le volet. On va parler du rugby avec encore un très bon résultat du RCML.
Très, très bon résultat.
Ouais, à Pradepic-Saint-Loup, match nul 18 partout. Les Mandois qui enchaînent ces résultats depuis quelques matchs. À noter par contre les blessures de Jaoul et de Toulouse. Du coup, Nibili, l'entraîneur adjoint, a dû entrer en jeu. On fait rentrer les entraîneurs adjoints, les vétérans dans cette équipe, mais ça marche.
Eh oui, c'est un peu la grosse, c'est pas un peu, c'est énormément la grosse problématique de ce club, hein, un effectif vraiment hyper réduit. Donc dans un sport où les blessures, ben, c'est vrai que c'est assez, c'est plus facile de se blesser au rugby qu'au badminton par exemple. Je sais de quoi je parle. C'est compliqué pour cette équipe du RCML. De faire des matchs avec toutes ses forces, mais bon, on voit que depuis cette victoire contre le leader 7, la dynamique est là, et donc match nul. Alors on se souvient que le match aller avait été hyper cruel, puisque Mann de mener 15-9, et puis une interception, et à la dernière seconde, il y a un essai entre les poteaux, et ça fait 16-15 pour l'adversaire, un match imperdable, et donc là c'est...
Et là c'était l'inverse.
Voilà, c'est Mann qui a marqué le dernier essai, et dommage que la transformation... ne soit pas passée.
Elle était un peu dure, elle était à 10 mètres de la ligne, donc sur le côté. Donc c'était compliqué.
Parce que 10 mètres, c'est pas loin.
Hein ? 10 mètres, c'est pas loin. 10 mètres de.
10 mètres de la ligne de touche,
des cages, 10 mètres sur le côté.
D'accord.
Alors, on peut citer les buteurs peut-être.
Ah oui.
Tu les connais ?
Non.
Donc, notre ami Loïs Morrison, qui est le coach,
faisait
son retour, son premier match de la saison, il claque le premier essai. Après, c'est Lafitte qui marque le deuxième, si je me trompe pas. Et le troisième, bim, Loïs Morrison, en fin de match, qui marque son deuxième essai. Et le troisième pour l'équipe, qui permet d'égaliser jusqu'à ce... Bon, il y a eu un raté pour la pénalité, c'est pas grave.
Et d'ailleurs, les trois essais n'ont pas été transformés, je crois. Hein.
Oui, voilà, il y a eu quelques échecs pour ça. Et du coup, Loïs, qui est super euphorique et content de sa prestation, offre à tous les auditeurs de 48 FM un tour de patinage devant la cathédrale. Vous pouvez y aller, le mettre sur son compte. Vous dites, voilà, c'est pour Loïs Morrison.
Allez, parfait. Mais tiens, j'espère que vous avez bien entendu cet appel de Laurent. On en est sûr, ça, au moins.
Alors, moyennant 5 € pour la location des patins. Sinon, après, vous aurez accès à la patinoire au centre-ville.
Allez, merci. Bah,
c'est lui qui fait un gros match, mais je crois qu'il y a eu un gros travail des avants sur les trois essais qui font encore la différence dans cette équipe.
Le match monumental du PAC, c'est vraiment le point fort de cette équipe. J'ai vu quelques matchs à domicile et c'est vrai qu'il y a un paquet d'avants qui martyrisent quasiment toutes les équipes de cette poule.
Et donc après, il y a plusieurs matchs à domicile là qui vont se jouer à la rentrée.
Prochain match là, vas-y dis-nous.
C'est le match en retard qui n'avait pas pu se jouer à cause des intempéries
de la semaine dernière.
Donc c'est début janvier.
Ok.
Et après, il y a encore une réception, oui,
le 14 janvier, Bédarieux.
Voilà. Et donc si tout se passe bien, l'équipe pourra enfin peut-être envisager son quart de finale à domicile puisque vous savez, il faut finir dans les 4 premiers, je crois. Et donc ils y croient. Et on y croit aussi pour
finir deuxième, troisième, quatrième. Voilà. Pour recevoir la maison. Alors sachant que administrativement, Sept a de gros problèmes avec ses autres équipes. Et donc d'après ce que j'ai compris, ils sont d'ores et déjà interdits de monter et interdits de participer au championnat de France, aux phases finales.
Ah, donc ce qui peut changer. Donc
ce qui explique un peu qu'ils soient.
Sept est combien actuellement?
Voilà, ils sont premiers ex-aequo, mais ils perdent quelques matchs depuis quelques temps, parce que je crois qu'au sein du club, il y a un peu des remous, en particulier au niveau administratif. Et le comité de Languedoc n'a pas fait de cadeau à cette équipe.
Ok. On a fini pour les sports lausériens. Rien à rajouter?
Non.
Je vois pas d'autre chose. Ah, une petite question, messieurs, tiens. Mais il n'y aura pas de points à la clé, ne me regarde pas comme ça, Laurent. Le Celtic Glasgow s'est incliné lourdement ce week-end sur le terrain de Hearts of Midlothian, 4-0 à Édimbourg. Alors, en quoi, messieurs, cette défaite est particulière?
Parce que ça faisait 69 matchs.
C'est pas possible, on peut pas jouer avec vous. Hein.
Voilà, 69 matchs qu'ils n'avaient pas perdu un championnat écossais.
Très bien, Patrick Bianconne. C'est exactement ça. 69 matchs, c'est énorme. Hein.
Oui. Bon, 69, c'est un chiffre facile à retenir, c'est pour ça.
Voilà. Hein, Laurent,
c'est comme c'est gâté.
C'est le Ron.
C'est comme c'est gâté.
C'est ça.
C'est ça parce que t'avais parié sur Miss Ronald, hein, c'est ça.
Voilà, exactement.
T'es un caca ballon d'or, le milieu de terrain brésilien de 35 ans, qui a notamment évolué, on s'en rappelle, au Milan AC, hein, annoncé qu'il prenait sa retraite. Ouais,
ça fait déjà quelques temps hein, qu'il est à la retraite.
Oh, il joue aux États-Unis.
Il joue aux États-Unis,
hein.
Orlando.
Ouais. Orlando.
Oui, c'est ça.
Ouais. Mais bon.
C'est quand tu joues c'est en foot loisir, t'as plus envie de penser à autre chose qu'au football.
Le FC Barcelone a rencontré Antoine Griezmann, notamment pour préparer le prochain mercato d'été. Bon choix pour Griezmann ?
Barcelone, oui. Je pense que quand même, c'est...
Et pour remplacer qui ? Pour remplacer qui ?
Ah, c'est une bonne question. Eh oui, oui, oui. Ben, je sais pas.
Ouais.
On peut pas savoir. On pourrait dire Dembélé, mais il a pas joué, donc faut lui laisser sa chance à ce jeune parce qu'il est ailier gauche, non?
En tout cas, il y avait une superbe interview de Diego Simeone dans l'équipe magazine samedi. 7-8 pages sur d'interview sur le coach. Et on comprend entre les lignes qu'il est très intéressé par Paris Saint-Germain. Donc, on peut déjà lancer les pronostics, mais je pense que Diego Simeone sera l'an prochain l'entraîneur de Paris Saint-Germain.
Ça serait pas mal. S'il achète
Vous trouvez que ça serait pas mal ? Il y avait le jeu défensif qu'il a. C'est pas très plaisant, le jeu de l'Atlético. Hein. Je trouve.
Ouais, mais il est défensif parce que là, il a
quand
pas.
Quand il demandera à Neymar de défendre un petit peu, il va avoir du mal. Cavani, bon, encore la rigueur. Et c'est tout. Hein.
S'il achète au mercato d'hiver, vu qu'il a participé à la Ligue des Champions, peut-il participer à la Ligue des Champions sur le banc de Paris ?
Qui
Simeone.
Ah, Simeone, oui. Je croyais que tu parlais de Griezmann s'il signe à Barcelone.
Non.
Donc,
Simeone.
Un joueur peut pas jouer la Ligue des Champions dans deux clubs différents. Par contre, un entraîneur, oui, sans problème, peut être sur un banc de touche de deux clubs différents. Non,
à mon avis, c'est pas pour l'acheter dès cet hiver, quand même.
Non,
mais c'était juste une question comme ça pour savoir.
Je pense que Simeone terminera la saison à l'Atlético de Madrid.
Par contre, Simeone peut aller entraîner l'AS Saint-Etienne, puisque Saint-Etienne ne joue pas la Ligue des Champions.
C'est ça.
Et qui recherche un entraîneur.
Ouais. Tiens, c'est la dernière de l'année, on va faire une petite rétrospective, peut-être.
Attends, et peut-être qu'on pourrait féliciter Aurélien pour ses petits fours, là, aujourd'hui.
Ah oui, c'est vrai, on a
pas.
Ils sont un peu mous.
Exactement.
Hein.
Ah, mais moi, je les préfère mous que durs, hein, parce que ceux de la dernière fois, je les ai encore, hein.
Ouais.
Non, mais Auré se fait chambrer régulièrement quand il nous apporte ces magnifiques petits fours, mais moi, je te dis merci. Ils sont vraiment délicieux, je me régale.
Ah oui, aujourd'hui, ils étaient très bons.
Bravo.
Merci.
Ben tiens, pour le coup, on va te donner la parole.
Je les ai fait avec amour, en pensant à vous.
Ah ouais.
Ton événement sportif, on va faire l'Auxerrien et nationaux et internationaux de 2017. C'est bête, hein. C'est toi qui la parles en premier. Non, on va donner à Patrick, tiens. Patrick, non, c'est bon, Henri ?
Ouais.
Allez, vas-y, dis-nous.
Moi, mon événement sportif l'Auxerrien, c'est le volleyball qui gagne la Coupe de France amateur. Et après, t'as dit international ?
Ouais, national, international, dans l'année 2017, qu'est-ce qui t'a marqué ?
Ben, je vais dire la dixième de Teddy Riner.
Ouais.
Mais dixième sacre mondial de Teddy Riner.
Ouais, bon choix. Parce qu'il y a eu quoi cet été ? Il y a eu le championnat d'Europe de foot, il y a eu... Non, les JO, c'était pas... Quoi ? Oui, c'était en 2017.
Non, 2016.
C'était en 2016 le foot, déjà ? Ah, on vieillit, mais pauvre, hein, ça passe à une vitesse. Qu'est-ce qu'il y a eu cette année comme événement, Patrick ?
Ben non, je vois pas là.
Il y a eu la France championne du monde de hand.
Ouais.
La Coupe Davis.
La Coupe Davis.
Il note tous les événements.
Il y a le hand féminin.
Il y a le hand féminin.
De ce week-end. Bon, Teddy Riner, comme tu viens de le dire. Il y a François Gabart qui a battu le record du monde en solitaire du Tour du Monde.
Ah, il y a eu le Champions OM Project
voilà,
aussi.
C'est ça.
Hein.
Mais ça a commencé en 2016.
Ça a commencé en 2016.
C'est bientôt fini d'ailleurs.
Ouais, ça va finir cette année. Patrick, ton événement l'Auxerrien.
Bon, c'est vrai que j'avais dans l'idée ce que Auré vient de dire. Bon, la finale avec Laurent, on était dans ce gymnase à Clermont-Ferrand. C'est vrai que on a vécu un moment fabuleux, vraiment. Énorme. Dans le cinquième set, je l'ai dit, je le répéterai encore longtemps, bon, j'ai vu le moment où on avait perdu, puisque cette équipe de Conflans menait dans le cinquième set, et donc il a fallu ses services venus d'ailleurs de Jonathan Fadier pour nous remettre dans cette partie et nous permettre de soulever la coupe. Donc c'était un moment fabuleux. Mais puisqu'il faut dire quelque chose de différent...
Ah ben, non, tu peux dire la même
chose.
Hein.
Non, mais moi aussi, j'ai quand même un autre souvenir. C'est le match de l'AFL contre Louan Cuiseau, où toute la semaine qui précède, ben, j'avais rencontré le coach, quelques joueurs, pour faire un papier, bon voilà, pour que les gens se mobilisent. Donc ça avait déjà été très intéressant de discuter avec eux et de voir dans quel état d'esprit ils étaient. Et puis on a eu un stade archi-comble, ben, ce jour contre le Vancouzou, avec un invité de marque, hein, puisqu'il y avait Romao, Alexis Romao, qui était présent, le copain de Nabil.
Il n'était pas invité, hein, il s'est pointé.
Ouais, donc il est venu parce qu'il connaît très bien Nabil. Et donc ben, là aussi, c'était quelque chose en plus. Et puis cette victoire 1-0 qui permettait de jouer ce dernier match, d'y croire. Bon, finalement, ça s'est mal terminé, on le sait. Mais bon, pour moi, ça reste un des gros moments de la saison sportive de l'année dernière.
Ok, au niveau national, international ?
Je sais pas trop quoi dire. C'est vrai que je reste un peu sur cette finale du hand de hier. Parce que bon, battre la Norvège, qui est un peu l'équivalent de la France chez les hommes, avec énormément d'excellentes joueuses, un palmarès énorme. Et puis nous, en France, c'est vrai que un effectif un peu plus hétéroclite, je dirais, puisque moi j'ai trouvé que tout au long de ce mondial, des joueuses françaises de très haut niveau, puis d'autres vraiment qui passaient régulièrement à travers de leurs matchs. Donc malgré ça, malgré cette différence entre les joueuses, on sent qu'il y a vraiment un esprit de corps dans cette équipe, et ce qui fait qu'en défense, elle donne tout 100%, le corps à la science, comme on dit, et donc chapeau à elle.
Merci Patrick. Julien, dis-nous.
Sur le plan lozérien, c'est surtout à titre personnel que je vais retenir quelque chose, puisqu'avec la réserve...
Mon doublé, mes deux passes au match.
Mon triplé contre le Massagro, non, c'est pas vrai. Non, à titre personnel, la bonne année 2017 qu'on a pu faire avec l'équipe réserve, qui est venue couronner une bonne saison 2016-2017, puisqu'on a fait le doublé Coupe-Championnat. Coupe Lozère et championnat PHA qui nous permet cette saison d'être en DHR. Et puis au plan national, oui, tout ce qui a été un peu évoqué, le hand ce week-end avec les garçons qui avaient gagné aussi en début d'année. Donc on commence avec un titre en hand, on finit avec un titre en hand, donc surtout le hand. Et puis ouais, le tennis, on l'attendait, cette victoire en Coupe Davis, donc le tennis. Et puis en tant que supporter de Nice, la troisième place de Nice, quoi, qui a pousser Monaco et Paris très très loin dans leur retranchement pour le titre de champion. On y aura cru longtemps, et puis voilà, ça nous permet de jouer l'Europe cette année en espérant aller le plus loin possible en Europa League.
Mmh. Alors sur les rétrospectives nationales 2017, je pense que ce sera le seul mec qui parlera de Nice en France. Mais bon,
ben
c'est
ouais,
bien, il en faut.
Ouais, c'est mon côté niçois qui ressort.
Ok. Lolo.
Ah ben moi, alors côté lausérien, c'est évident que cette victoire à Clermont là contre une équipe de Paris, un Coupe de France de volée, c'était une super émotion. Donc je vais changer un petit peu pour me démarquer. Je voulais parler, mais pas d'une victoire. En fait, c'est le parcours de toute l'équipe du Lauser Sport Nature (LSN) qui a fait les championnats du monde aux États-Unis et qui échoue à un poil de cul de finir sur le podium des championnats du monde. Et donc voilà, c'était vibrant de les suivre sur internet. Et voilà, donc je voulais en parler.
Ok, national, international.
Et national, c'est handball aussi, mais c'est pas que l'équipe féminine, c'est masculine aussi. Bon, Julien vient de le dire, mais aussi la jeune génération qui arrive après, parce que j'ai eu la chance de côtoyer l'équipe U19, qui elle aussi est championne du monde masculine. Et voilà, c'était le monde du handball qui va très bien en ce moment et qui aura encore de très belles années à venir.
Ok, merci Laurent. Ben moi, j'ai parlé du MGC pour 2017, parce que c'est un club qui devait descendre l'an dernier et qui s'est sauvé in extremis. Et
dernière journée.
À la dernière journée. Donc moi, étant supporter en foot de Montpellier, j'aime bien les clubs qui galèrent un peu comme ça, que tu suis et qui se sauvent, parce que c'est aussi beau de se sauver quand tu dois descendre que de gagner quand tu dois gagner. Donc voilà. Et aux féminines aussi du MGC qui sont sympas et qui continuent à être pas toujours nombreuses, mais à aller faire les matchs, même en effectif réduit, je trouve que c'est beau. Et donc, du coup, je resterai aussi sur le hand pour le niveau national, international. C'est quand même le sport phare, même si Riner a quand même encore plus marqué de son empreinte le sport français. On va pas parler parce qu'il y avait le championnat d'Europe de basket aussi, hein, cette
année. Aussi, tout à fait. Ouais,
mais ça, on n'en parle pas.
Non.
Non, ok, tu fais bien. Quelle heure il est ? 24, allez, il nous reste juste un peu de temps pour parler du foot, de la Ligue 1. Pas grand-chose à retenir ce week-end, si ce n'est que sur cette place, de toute façon on va parler que des places 2, 3, 4 maintenant, hein, parce que la place numéro 1, elle est prise, et à mon avis pour longtemps. Monaco, Lyon, Marseille, Monaco qui fait la bonne opération, de même que Lyon.
Hein, c'est oui, Marseille, en fait, c'est Marseille qui fait la mauvaise opération.
Qui fait la mauvaise opération.
Et Montpellier.
Ils ne jouaient pas Montpellier. Ils étaient exempts.
Montpellier aurait pu remonter à la sixième place.
Ouais. Non, mais c'est pour faire plaisir à leur ancien coach, Frédéric Hans, l'Aveyronnais.
C'est pour laisser la place à Nice. Parce que Nice doit. Et Nice est sixième. Tiens, prends le micro, Julien. Nice qui était avant-dernier, on se moquait de Nice pendant tout cet instant sport.
Il y a trois semaines, Nice était en Ligue 2.
Oui, c'est ça. Et là, sixième.
Là, tu vois, il y a deux minutes, tu me dis Nice, tu vas être le seul à parler rétrospective nationale de Nice.
Ouais, ils sont sixième aussi.
Oui, ça va, c'est pas non plus la folie, mais on dit ça en rigolant qu'il y a trois semaines, Nice était en Ligue 2, mais c'est vrai qu'il y a pas si longtemps que ça, ils étaient à cette 18e place de barragiste. Et puis on a l'impression que Favre a enfin trouvé un 11 type, là, et ça fait 2-3 matchs qui met à peu près les mêmes 11 joueurs, avec l'éclosion, entre guillemets, de Benitez dans les cages. Et donc voilà, ça va bien. Et puis il y a de
Benitez
quoi.
Benitez qui fait 20 kilos de moins que son prédécesseur.
Et 20 centimètres de plus.
Et ouais.
Ça allonge le bonhomme. Mais ouais, il y a de quoi être optimiste pour 2018. Ouais, c'est vrai que le début de saison a été un peu galère. Alors c'est pas encore flamboyant, mais ça tourne du bon côté. Il y a eu la qualif à Lille la semaine dernière au tir au but. Là, il y a une victoire un peu à l'arraché contre une équipe de Bordeaux qui était venue à 11 derrière. Et donc voilà, une bonne chose. Et puis, il faut bien finir cette année 2017 de nouveau à Lille, mercredi en championnat, pour confirmer cette belle série.
Et moi, je suis très inquiet pour Saint-Etienne et Toulouse, deux équipes.
Et Bordeaux aussi.
Et Bordeaux.
Et Bordeaux, mais Bordeaux, comme et d'habitude, ils vont faire un recrutement intéressant, ça va bien se terminer. Mais par contre, Saint-Etienne et Toulouse, je suis inquiet, quoi. Parce que déjà, Saint-Etienne, il n'y a plus rien du tout, même les supporters. Veulent casser la gueule aux joueurs et aux dirigeants, donc là, la très bonne idée de venir encourager leur équipe à gagner plutôt que de les faire sombrer, donc ça je comprends pas ces pseudo-supporters. Et Toulouse qui a une équipe sympathique avec des très bons garçons, un bon coach il me semble, et qui s'en sort pas pour l'instant, qui est 17e avec seulement un point de plus que le barragiste Lille. Voilà, donc c'était mes deux inquiétudes.
Mais plus Saint-Etienne que Toulouse, quoi, parce que bon, à la limite, Toulouse a peut-être entre guillemets un peu plus l'habitude de jouer le maintien. Mais c'est vrai que Saint-Etienne, sur les dernières saisons avec Galtier, on avait plutôt l'habitude de les voir à la 5e, 6e place. Mais c'est vrai que là, c'est quand même très très inquiétant. Le match de Monaco, là, vendredi soir, c'est. Je pense que la trêve va faire du bien, quoi. Et puis, il faut faire du ménage dans ce club. Deux présidents, deux entraîneurs.
C'est pas possible.
Tout est doublé sauf les joueurs, quoi, finalement.
C'est ça.
Tu parles de Galtier, apparemment d'ailleurs il a été approché par le président de Nice pour peut-être remplacer la saison prochaine Favre.
Oui, alors bon, ça a été immédiatement démenti par le président Jean-Pierre Rivère. Ouais, mais c'est vrai que Jean-Pierre Rivère, le président de Nice, a pas forcément l'habitude de se présenter en conférence de presse, mais à chaque fois qu'il vient en conférence de presse d'avant-match ou d'après-match, c'est pour dire les choses, et là il a clairement dit que c'était faux, quoi. Alors c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a une photo qui a tourné de Rivère qui parle avec Galtier. Mais bon, le président Rivère a le droit de parler quand même avec qui il veut, sans forcément le fait que ce soit pour approcher un coach. Et puis comme il a si bien dit, Lucien Favre
il restera
a la totale
pas
confiance. Hein. Non, il ne restera pas éternellement, mais il finira la saison.
Voilà, et après il partira.
Oui,
c'est vrai que c'est serré. Hein. On parlait des championnats régionaux qui sont serrés, mais là c'est pareil. Et voir... Bordeaux, Saint-Etienne, Toulouse, Lille de la 15e à la 18e place, c'est quand même étonnant.
Par contre, à contrario, si on a un peu tué la Saint-Etienne et Toulouse, on peut souligner la belle première partie de saison de Strasbourg.
C'est ce que j'allais te dire. Strasbourg était bien, pas très bien. Ouais. Et là,
la victoire contre Paris en championnat a fait du bien. Là, ils ont encore gagné contre Toulouse ce week-end. Et puis, alors, même si au niveau des points, ils sont pas maintenus, hein, parce qu'il y a que 5 points d'avance ou 6 sur Lille qui est barragiste. Mais il y a quelque chose qui rend cette équipe sympathique, quoi, entre leur façon de jouer, leur coach Thierry Lauré qui vient en conférence de presse avec beaucoup de second degré. Et puis ce public de la Méno qui a toujours été là, quoi, même quand le club était en CFA2, ça a affiché 15 000 de moyenne. Et puis là, on peut que comprendre que maintenant la Méno se soit plaint. Et c'est un vrai plaisir de voir cette équipe de Strasbourg.
Oui, mais alors, il faut qu'ils en profitent, parce que comme toutes les équipes qui montent de Ligue 2,
Il y a la première année, t'es euphorique. Ouais, et puis la deuxième, c'est plus dur. Et la troisième, tu te casses la gueule. Donc, comme Angers actuellement. Alors que Angers jouait très bien.
C'est vrai, l'année dernière, ou il y a deux ans.
Il y a deux ans. Et jouait très, très bien. Quoi. Ouais.
Mais Angers a perdu beaucoup de joueurs. Et ceux qui, ceux qui ont été recrutés pour les remplacer sont notamment quasiment.
Shakendoy. Le départ de Shakendoy a fait énormément de mal à Angers. Ouais.
Il est parti où, Shakendoy ?
En Angleterre.
En D2.
D2 anglaise.
Par contre, ils ont un super avant-centre, là, Etoko Ekambi.
Carl Etoko Ekambi, oui.
Qui irait très bien à l'Olympique de Marseille.
Ouais, alors là, je préférais celui de Lyon, quand même.
Celui de Lyon.
Celui qui a marqué le deuxième but.
Mariano.
Bon, il fait zéro pas, il joue pour sa gueule, mais il marque des buts.
C'est ça.
Et je pense que si tu bon, ce match, cet Olympico...
S'il est estampillé Lyon, il ne peut pas jouer à Marseille.
Sans critiquer Mandanda, c'est sûr, c'est évident que si tu changes de gardien sur ce match-là, bon, je le changerai pas sur toute l'ensemble de la saison ni sur l'ensemble d'une carrière. Mais sur ce match-là, j'aurais bien aimé changer les deux gardiens parce que le résultat aurait été inversé. Mais il n'empêche quand même que c'est dommage parce qu'on a recruté des avant-centres. Et c'est vrai que si on avait eu le flair de recruter ce Mariano qui ne jouait jamais au Real, ben je pense qu'on serait deuxième, on serait deuxième avec 3 voire même 4 points d'avance sur Monaco.
C'est un vrai pari quand même d'aller le chercher parce qu'il a sa réserve, il jouait pas beaucoup avec la réserve du Real.
Ils l'ont payé cher, hein, 15 millions, je crois. Hein,
ils ont comme Mitroglou, quoi. Ils ont mis le prix, mais je sais
pas un prêt.
Non, c'est un achat. Ouais, c'est un achat. Et puis je sais pas qui c'est qui a résumé ça. Quel site a résumé ça, Eurosport ou France Football, je sais plus. Qui a dit l'OM a du talent, mais l'OL a des buteurs. Voilà.
Et non, c'est vrai.
C'est très bien résumé.
Non, mais tu comprends mieux quand tu le vois jouer pourquoi il n'a jamais eu sa chance au Real de Madrid. Parce que s'il fait même ne serait-ce que 2 ou 3 entraînements avec Ronaldo et que toutes les fois qu'il a le ballon, ben, il part tout seul et il tire.
Il fait pas
et
qu'il
fait jamais de passe à Ronaldo. Il est bien évident que Mariano n'avait aucune chance de jouer en équipe première du Real Madrid. Mais bon, il n'empêche que malgré son côté individualiste,
un petit peu comme Aurélien au basket, quoi.
Il est quand même. Je trouve qu'il est quand même. C'est quand même un sacré joueur.
Je te signale que j'ai fait 6 ou 7 passes décisives quand même. Vendredi soir.
Ouais. 3 points, 6 passes décisives, 3 blocs, 8 balles perdues. Voilà ses stats. Allez, merci messieurs, on se retrouve en 2018. Passez de bonnes fêtes et à nos auditeurs aussi, bonnes fêtes. On se retrouve donc
bonne fête à tous.
Ouais, bonne fête à tout le monde.
Voilà. On se retrouve le 3.
Le 3 janvier au Piancourt. Pour commenter ce match, le 8
pour
ici
défoncer
même.
Défoncer les nordistes.
C'est ça, exactement. Et peut-être qu'il y aura Miss France qui sera présente dans les tribunes,
on sait
pas. Oui,
parce que Miss Nord-Pas-de-Calais, donc elle viendra que Tourcoing.
Ouais.
Exactement. Allez, ciao les gars.
Allez, au revoir. Salut.
Bye.
Leslie John au couloir numéro 2, allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, t'as remarqué, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Du tas de apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.